Pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine est féministe.
On n'est pas hétérosexuel, on le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
Transpédéguine. On n'est pas des cadeaux.
Une émission Transpédéguine est féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission Transpédéguine.
Enfin, surtout Transpédéguine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue à On n'est pas des cadeaux. On va commencer cette émission qui va traiter de la santé des transpédéguines par les infos. Alors, d'abord, au Pérou, les LGBT au centre du débat sur la présidentielle. Alors que le favori des sondages à la présidentielle se dit prêt à instaurer l'union civile pour les personnes de même sexe, les LGBT péruviennes continuent de se visibiliser et l'Église catholique, influente dans le pays, essaye de reprendre les choses en main. En février, les LGBT ont organisé deux kissines sur la place d'armes de Lima pour revendiquer des droits. La première fois, la police les a virés brutalement, suscitant une vague de réprobation, mais les LGBT sont revenus le samedi suivant, entourés de politiques soutenant leur cause. Seul riposte, un groupe de contre-manifestants catholiques ont prié 3 heures durant sur le parvis de la cathédrale, ça change, hein. La plus virulente opposition à l'union civile vient effectivement de l'Église catholique, qui, par ses critiques, a paradoxalement donné beaucoup plus d'écho au débat. Son chef de file, Monseigneur Juan Luis Cipriani, issu de l'Opus Dei, puissante organisation catholique conservatrice, a sommé tous les candidats à la présidentielle de se prononcer sur le sujet pour savoir pour qui on va voter. Le mouvement homosexuel de Lima a salué une reconquête historique de l'espace public.
Et puis à Cuba, le gouvernement donc de Cuba dénonce le blocage par Washington de fonds anti-sida destinés à l'île. Donc le programme des Nations Unies pour le développement a informé les autorités cubaines que Washington avait gelé les fonds destinés au secteur de la santé de l'île, ce qui risque de porter préjudice à des projets et aux soins concernant la population sidatique de l'île. Et le gouvernement cubain dénonce, je cite, une action illégale qui s'ajoute à la longue liste d'applications extraterritoriales de l'embargo économique et commercial imposé par les États-Unis à Cuba depuis 1962.
Alors, en France, une mobilisation pour une lesbienne ougandaise réfugiée à Paris. C'est Brenda, une activiste lesbienne ougandaise du SMUG, Sexual Minority Uganda, a fui son pays après avoir subi des agressions et exactions de la part des flics parce qu'elle avait été dénoncée en tant que lesbienne par un tabloïd ougandais, Red Pepper, qui mène une campagne de dénonciation des homosexuels. Son amante a quant à elle été arrêtée. Brenda ne possède pour le moment qu'un visa de 1 mois. Elle a déposé une demande de droit d'asile. ACT UP Paris, Chambered et d'autres assos se mobilisent pour qu'elle ne soit pas expulsée en Ouganda d'ici fin mars. Affaire à suivre.
Et à Lyon, aujourd'hui, avaient et ont encore lieu même les assises de la prostitution. En fait, ces assises, c'est la 5e édition cette année. C'est la première fois que ça a lieu à Lyon. C'est organisé donc par Kabiria et puis par le collectif Droit et Prostitution et le STRAS, entre autres. Et c'est une rencontre qui a lieu tous les ans entre des associations, des collectifs, des personnes, des gens de toute la France. Il y en avait aussi de Belgique, de Suisse, d'Angleterre, je crois. Alors je vous lis un extrait du texte de présentation. Dans ce contexte sécuritaire et répressif contre toutes les travailleuses et travailleurs du sexe, le besoin d'être visible, de nous retrouver et de nous organiser est plus que jamais d'actualité. Donc c'est une rencontre entre ces personnes, ce qui permet de se voir, des gens qui travaillent à différents endroits, dans différentes manières, et donc de discuter. Par exemple, cette année, il y avait le travail dans la rue ou alors sur Internet, les violences et la répression qui peuvent être exercées contre les travailleurs au travers du sexe, et les droits qui et elles peuvent, dont ils peuvent bénéficier et qu'ils peuvent revendiquer. Et puis des questions, discussions sur les formes d'organisation possibles. Il y avait par exemple un point sur le STRAS, donc le syndicat des travailleurs du sexe, qui a été créé à l'occasion des assises il y a 2 ans et qui aujourd'hui dont les membres se demandaient qui ont fait un bilan pour savoir où ils en étaient, qu'est-ce que ils et elles veulent, et puis par exemple plus largement une discussion sur un projet qui est en cours de discussion sur à l'Assemblée, notamment au Sénat, sur la pénalisation des clients. Et donc, comment est-ce que les travailleurs du sexe peuvent se mobiliser pour empêcher ce projet qui reviendrait de fait à une pénalisation aussi d'elles et eux, et donc une impossibilité d'exercer le travail du sexe. On en reparlera dans une prochaine émission. Demain, il y aura aussi, dans la suite des assises aujourd'hui, une marche pour les droits des travailleuses au travers du sexe, pour les prostituées et autres tapins. Et donc, le rendez-vous est à 14h30, place des Terreaux.
Ok, maintenant on passe à la rubrique On en rigole de nos infos. Alors on a 2 infos On en rigole. Alors à Lille, une expo gay vandalisée par un collectif hétérophobie, stop. Alors c'est une exposition de photographies sur l'homosexualité dans le hall de la faculté de médecine de Lille, qui est organisée par l'association Homo d'étudiants en médecine. Et qui s'appelle Silence H. C'est organisé jusqu'au 12 mars. Et après 10 jours de présence, cette exposition a été vandalisée. Les clichés ont été recouverts de peinture rouge, un acte revendiqué à travers un communiqué de presse intitulé « Tag des clichés pédérastes de Lille 2 », envoyé aux rédactions locales et à de nombreux étudiants par un collectif nommé « Hétérophobie Stop ». Alors c'est le nom du collectif qui nous a bien fait rigoler en lisant cette brève, parce que c'est assez intéressant de voir que la seule présence de photos montrant l'homosexualité devient un acte hétérophobe. Alors on a envie de dire aux pauvres petits hétéros persécutés par les méchants homos, c'est pas facile, hein.
Et on en rigole aussi à Londres, où un couple gay provoque une alerte à la bombe à l'aéroport lors d'une dispute conjugale. Donc c'est une rupture explosive, puisque tous les passagers et tout le personnel ont dû être évacués du terminal de l'aéroport de Londres après que l'amant d'un PD qui prenait l'avion l'ait dénoncé à la police, affirmant qu'il était porteur d'une bombe. Il avait l'intention de faire sauter quelque chose, provoquant ainsi de nombreux retards sur les vols. Alors c'est sûr, c'est un peu triste qu'ils en arrivent à ce stade, mais bon, si toutes les ruptures étaient comme celle-là, ce serait rock'n'roll, et puis peut-être que ça nous ferait un peu réfléchir au couple, à l'amour et à tout ça.
Ok, explosif en effet. Alors, on va enchaîner sur le sujet de l'émission. Alors pourquoi parler de santé transpédéguine? Alors, l'institution médicale hétéronormative et sexiste, ça implique que se soigner devient le parcours de la combattante. Les médecins agissent avec nous, c'est-à-dire les transpédéguines, comme avec des bêtes de foire. Ils se permettent de nous poser des tas de questions, répondant à leur curiosité mal placée, et non pour la consultation. Ou encore, ils ne nous écoutent pas, puisque nous sommes bizarres. Nous n'avons pas notre mot à dire, nous sommes plus facilement infantilisés, on nous refuse le droit de décider de notre vie, on nous refuse le droit de choisir ce qui est bon pour nous. Dans bien des cas, la confrontation avec l'institution médicale nous fait prendre conscience en tant que trans, PD, Gwyn, que ni notre corps ni notre vie ne nous appartient. Le viol médical fait partie des stratégies de cette institution pour nous rappeler que nous sommes rien face à elle et qu'ils peuvent à loisir prendre le pouvoir de notre corps. Des exemples, il y en a des milliers. Ce sont des heures passées devant le psychologue du collège parce que des professeurs ont décidé que ton homosexualité prématurée pouvait se guérir, ou encore tous ces rendez-vous chez le psychiatre à attendre qu'ils veulent bien donner le papier qui t'autorisera à prendre des hormones. C'est la gynéco qui fait entendre que tu es vierge parce que tu baises avec d'autres gouines. C'est le médecin qui va te violer pour vérifier que ton néo-vagin est conforme à leurs normes pour que tu puisses changer d'état civil. Ce sont toutes les questions que les médecins nous posent et qui n'ont rien à voir avec la consultation. Alors, pour contourner l'hostilité du corps médical, il faut aller à la recherche de perles rares, de ces médecins un peu moins normatifs, ou qui ont envie de réfléchir, ou qui sont solidaires de certaines de nos luttes. On se refile des adresses, on fait des blacklists, on y va à plusieurs, on file des brochures, on crée des réseaux, on crée des associations de santé communautaire. Autant de stratégies pour essayer de pouvoir accéder aux soins sans échec, humiliation ou viol, pour qu'enfin on puisse être soigné, écouté et comprise. La lutte pour que nos corps nous appartiennent n'est pas terminée, elle est plus que jamais d'actualité, que ce soit pour les femmes, les gouines, les PD et les trans. Et puis, on veut aussi parler de la santé dans nos collectifs de transpédéguines. Parce que nos choix de vie, de lutte, font que c'est pas toujours facile. Résister à la pression sociale du travail, de la famille, de l'hétérosexualité, ça demande une énergie folle. Et même si on le vit à plein, parfois, on pète un plomb. Alors comment on fait dans nos collectifs à ces moments-là? Comment on s'organise pour que l'HP ne soit pas l'unique solution, mais une parmi les autres qu'on discute, essaye, organise? Et comment est-ce qu'on s'organise aussi quand une amie a des graves problèmes de santé? Comment arriver à changer nos modes de fonctionnement de valides? Autant de questions qu'on discute, que ce soit dans nos différents collectifs de vie et ou de lutte, mais aussi à plus grande échelle dans des rencontres transpédéguines. Alors, on va écouter un premier reportage qui est l'interview d'une médecin au planning familial et au centre de dépistage à Lyon qui explique un peu ses stratégies pour pouvoir poser la question de l'homosexualité dans les consultations. Alors, d'une part, pour casser le présupposé hétérosexuel quand on arrive chez les médecins, là, où pour la plupart des médecins, il n'y a pas de réflexion, c'est juste hétéro et puis basta. Et là, c'est donc casser ce présupposé-là. Et puis, d'autre part, parce que souvent, le fait à un moment donné de poser que t'es homo, eh ben, ça peut changer des diagnostics. Alors, il y a un exemple parmi tant d'autres, mais c'est que un mal de gorge qu'un médecin pourrait dire, bon, bah, c'est une angine virale, eh bien, si on réfléchir un peu, ou en tout cas si la consultation à un moment donné elle pour un par exemple pour un gay elle, on s'aperçoit que voilà c'est enfin ça peut être aussi une IST liée à une fellation, et ben ça va complètement changer le diagnostic. Et ça fait que si jamais il y a un présupposé hétérosexuel, et ben t'auras jamais le bon diagnostic, t'auras jamais les médicaments, t'auras rien en fait. Donc cette médecin, elle parle de ça, puis elle parle également de ce que c'est que la santé communautaire, et elle va notamment parler de deux centres de santé communautaire à Toulouse et à Paris, où il y a une spécificité, c'est qu'il y a des médecins qui travaillent, alors que la plupart des associations de santé communautaire, elles n'ont pas de médecins, et du coup elles travaillent plus sur donner des informations, faire de la prévention, de la réduction des risques. Et voilà, du coup on va lancer ce reportage, alors bonne écoute.
Alors déjà, moi aussi, j'ai fait une thèse un petit peu sur cette question-là, d'accord, sur aborder la sexualité en consultation, et ce qui m'intéressait particulièrement, en fait, c'était de savoir comment aborder l'homosexualité en consultation. Et en fait, bon, je te reparlerai du planning après, mais déjà, enfin moi ce que je vois, parce que je travaille au planning et au centre de dépistage anonyme et gratuit, et déjà en fonction du lieu, il y a des questions que tu peux poser beaucoup plus facilement dans un endroit et qui sont beaucoup plus difficiles à poser dans un autre. Et la question par exemple du fait de savoir si la personne elle a un partenaire homme ou femme, et le fait de le dire, hein, est-ce que vous avez des rapports avec un homme ou avec une femme, voilà. Donc au centre de dépistage, c'est beaucoup plus facile, et ça, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Et je pense que c'est ça, voilà, c'est parce que c'est le sujet, enfin, on peut parler de vraiment de beaucoup de choses, enfin, du nombre de partenaires, enfin, c'est beaucoup, moi je trouve ça beaucoup moins normé en fait. Le planning en fait, bon, un des obstacles quoi, entre guillemets, c'est vraiment que c'est les personnes elles arrivent avec une demande qui est, alors moi quand elles arrivent je leur demande pourquoi vous venez, hein, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce que je peux faire pour vous, et donc souvent la demande c'est je veux une contraception. Il faut la pilule, il faut renouveler la pilule, etc. Ça, c'est au moins la moitié des demandes, voire peut-être plus. Donc, à partir de là, à partir du moment où quelqu'un t'a dit qu'elle voulait une contraception, c'est quand même difficile de faire un retour en arrière en lui disant, et au fait, vous n'avez pas des rapports avec des femmes. Donc, voilà. Et ça, c'est un petit peu un biais au planning. Et après, bon, il y a aussi des consultations de médecine générale où là, on est peut-être plus comme dans le cas du SIDA où les gens ils viennent avec une demande sous-venant, enfin pour des soins en fait, en général. Et donc au cours d'un premier entretien, tu peux essayer d'aborder ça. Donc tu as plusieurs techniques en fait. Alors l'aborder de façon frontale, c'est très difficile pour un médecin parce que il y a vraiment une hétérosexualité archi implicite en fait. Et en fait, tu peux pas la. C'est assez difficile de la désamorcer. Alors, du coup, pour moi, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique, soit quand tu fais le tour. En fait, c'est souvent une technique de listing, quoi. Tu fais une sorte de listing et puis tu cases au milieu le fait d'avoir un partenaire de même sexe, par exemple. Et donc, t'as le listing, par exemple, conjugal, si tu t'intéresses à la vie conjugale de la personne, donc tu peux lui dire, voilà, s'il n'est pas axé ou quelque chose comme ça, même si, en fait, bon, les paxés, c'est pas majoritairement des homos, mais bon, ça introduit un petit peu cette idée, quand même, c'est un peu rattaché à ça. Bah, listing, c'est juste, tu fais, quand tu questionnes, en fait, tu fais une énonciation, par exemple, si tu questionnes directement, tu vas dire sur cette question, tu fais, vous êtes célibataire, marié, paxé, tu vois, tu fais plusieurs propositions, et la personne, bah, elle en choisit une, ou pas du tout. Donc voilà, ça peut être une des premières techniques. Et en fait, le but du jeu, parce que dans une consultation médicale, il y a un problème aussi, c'est la question du temps. C'est-à-dire que t'as pas non plus 20 ans pour faire ta consultation. Et donc, tu dois... Le but du jeu, c'est d'arriver à envoyer des signes à la personne que tu es suffisamment dans le non-jugement pour qu'elle arrive elle-même à dire qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Ça reste ta vie sexuelle, en fait, hein, le fait d'avoir des rapports avec une personne du même sexe. Donc, les gens, en général, ils viennent pas pour parler de ça, vraiment. Enfin, sauf au panier, puisque c'est la personne. C'est le motif, mais... Alors du coup, vraiment, c'est vraiment un jeu très intéressant. Et du coup, donc, t'as plusieurs en fait points vraiment assez précis qu'il faut pas rater si tu veux, à mon avis, rester assez ouvert pour avoir entre guillemets cette révélation. Et parce que la deuxième technique qui est vraiment de demander frontalement est-ce que vous sortez avec un homme ou est-ce que vous avez des rapports avec un homme ou avec une femme, ou bien chez les ados est-ce que t'as déjà eu un petit copain, une petite copine, tu vois, chez les ados c'est encore différent. Ça c'est vraiment, il faut qu'il y ait un contexte, quoi. Il faut qu'il y ait un contexte un peu médical précis, ou il faut que tu sois avec une personne cible vraiment précise t'as besoin de penser qu'elle estime que c'est légitime en fait ta question, pour pas que ça soit intrusif. En fait, il faut que tu arrives à rattacher ça à une question d'ordre médical en fait, plus ou moins. Voilà. Alors, sinon, les signes, en règle générale, c'est vraiment de... Enfin, les techniques, c'est vraiment de garder le neutre quand tu parles de partenaire, en fait. Bon, ça, c'est tout bête, hein. Mais faut y faire gaffe. Mais ça paraît évident, mais il y a plein qui le font pas. Par exemple, soit si t'emploies le mot « ami », par exemple, est-ce que vous avez un ami, une amie, tu dis les deux, un ou une. Si t'emploies le mot partenaire, alors si tu mets un partenaire, des fois ça peut valoir dire une. Si t'emploies le mot personne, tu dis une personne, voilà, et tu dis pas un mari ou une femme ou un conjoint ou une conjointe. Enfin, t'essaies de garder les deux à chaque fois jusqu'à ce que la personne elle le dise si elle a envie de le dire. Mais la plupart du temps, les homosexuels ou les gens qui sortent avec les personnes du même sexe, en fait, ils arrivent très bien à garder le neutre très longtemps. Eux aussi, ils savent très bien faire ça pour ne pas donner la réponse à la question de savoir avec qui ils couchent, quoi. Et voilà. Et dans mon expérience, donc ça c'est vraiment un point massif, quoi, de garder le neutre. Et dans mon expérience, en médecine générale, c'est les hommes, en fait, ils arrivent beaucoup plus rapidement à dire qu'ils sont gays, par exemple. Ils vont dire, bah, moi, docteur, je suis gay. Voilà. Ah bah, très bien. Et les lesbiennes, dans mon expérience, il faut quasiment aller poser la question, quoi. Sinon, elles vont jamais arriver en disant, au bout de 5 minutes, ah bah, moi, en fait, je suis lesbienne. Enfin... Mm-hmm. Je l'ai peut-être eu une ou deux fois quand même. Vraiment, c'est. Si, il y en a une qui me. Elle me fait. Ah, moi, c'est un peu particulier, je sors avec une femme. Quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment un cas un peu particulier, quoi. Elle avait un enfant. Enfin, bref, c'était un cas compliqué. Donc, c'était dur pour elle de se passer de cette explication. Donc, elle l'a mis tout de suite sur la table. Donc, là, c'était facile. Voilà. Et donc, voilà. Donc, les lesbiennes, déjà, plus compliquées à amener. Et aussi parce que, alors, je te disais, la deuxième stratégie, c'est d'arriver à faire en sorte que la personne, elle rattache ça à un truc médical. Et, alors, pour les ados, bah, t'as ce truc de, tu sais, les ados, tu leur fais un peu de consulte de prévention. Tu veux savoir s'ils sont bien vaccinés, s'ils connaissent des choses sur la transmission des maladies, sur le tabac, sur tout un tas de trucs. Et du coup, ça passe assez facilement, voilà, de leur demander voilà, s'ils n'ont pas eu un petit copain, une petite copine. Ça passe pour un truc médical, ça passe pas pour un truc intrusif. Donc, chez les hommes... Ils viennent te voir parce que ils ont des brûlures quand ils urinent et tout. C'est évocateur d'infections sexuellement transmissibles. Donc là aussi, ça passe assez bien de leur demander s'ils n'ont pas eu des rapports avec un gars. Parce que ben, ils le savent en fait eux-mêmes. Hein. Tu vois, l'homosexualité, sida, c'est vachement rattaché. Et du coup, bon, malheureusement, hein, mais bon. Du coup, les gens, ils savent ça. Du coup, quand tu leur demandes, ils arrivent à faire le lien médical. Du coup, ça passe super bien aussi, tu vois. Oui, non, j'ai pas de partenaire. Voilà. Alors, pour les femmes, bah alors, t'as pas ça. Bah, t'as pas de lien avec le sida, t'as pas de lien médical. Et donc, tu peux pas leur dire, est-ce que vous couchez avec une femme, tu vois c'est comme si tu pensais qu'une femme leur aurait transmis une IST. Même si dans les études, en réalité, les femmes qui ont des partenaires femmes, elles ont plus d'IST que les autres. Parce qu'elles ont plus de partenaires masculins, elles ont des rapports plus jeunes, et celles qui se définissent comme bisexuelles, elles utilisent moins les préservatifs. L'intérêt de la santé communautaire, c'est de remplir un rôle, en fait, que n'arrivent pas à remplir les structures publiques et les structures privées, parce que, enfin, elles s'adressent à une norme, en fait, voilà, une généralité, c'est-à-dire quelqu'un, bon, homme ou femme, parce qu'il y a des structures quand même pour les femmes, d'accord. Mais qui parle français, qui a priori est hétérosexuel, effectivement. Bon, après, sur l'âge, il y a des petites spécificités. Donc, tu as des structures pour les enfants, tu as des structures pour les personnes âgées, d'accord. Mais après, il voilà, y a des domaines sur les représentations qui sont associées, on va dire, au pays aussi. Donc, par exemple les migrants, qui en fait ça, c'est une barrière en fait dans l'accès aux soins. Et pour les personnes homosexuelles ou transsexuelles, c'est il y a une barrière aussi parce que, enfin, du fait du présupposé hétérosexuel, du fait que les structures ne montrent pas qu'elles qu'elles n'ont pas ce présupposé. Présupposé hétérosexuel, enfin, c'est juste des fois, enfin, c'est pas les gens qui travaillent dedans, c'est pas super construit, hein, ils ont pas super réfléchi au truc, mais c'est juste de que l'homosexualité, c'est pas forcément qu'ils sont homophobes, hein, mais c'est juste que l'homosexualité, tu vois, ça n'existe pas pour eux. Ou en tout cas, la structure, même s'il y a des homos qui travaillent dedans, elle montre comme si ça n'existait pas, quoi. C'est-à-dire, elle ne montre pas de signes positifs, quoi. Et pour les trans, c'est encore bien pire, quoi. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de lieu où il y a un accueil correct, quoi, au niveau de la santé. Voilà. Et du coup, la santé communautaire, bah, ça... Ça vient pour essayer de compenser ça, pour favoriser l'accès aux soins des personnes qui sont dans ces minorités sexuelles ou identitaires ou de pays, quoi. Tu vois. Et en fait, et donc c'est une démarche où en fait tu vas travailler avec des personnes. Qui vont être un petit peu entre le système de santé qui existe en France et ses normes aussi, c'est-à-dire pour pas mourir du cancer, bah, il faut faire du cancer du col de l'utérus, faire des frottis tous les 3 ans, par exemple, telle norme. Ça, c'est des normes, on va dire, scientifiques, voilà, internationales. Enfin, pour moi, ça se discute pas tellement, cette norme-là, parce que c'est quelque chose de... Ça va au-delà de l'hétérosexualité, en fait. C'est, même si ça a été étudié majoritairement chez les femmes hétérosexuelles, si tu veux faire en sorte que les femmes meurent moins du cancer du col de l'utérus, c'est le seul outil, enfin, c'est le seul examen qui est capable de voir le cancer avant qu'il soit généralisé et qu'on soit capable de le traiter. Voilà. Donc, trouver des personnes qui ont à la fois ces normes-là, qui les ont intégrées, et qui à la fois sont issus, représentants d'une communauté spécifique, et du coup qui sont capables de faire le lien. Voilà. Et la santé communautaire, voilà, pour moi c'est un petit peu ça. Et après, bon, alors ça, les gens ils le font de façon individuelle des fois, ou par exemple, et c'est souvent avec les personnes migrantes qui le font, par exemple, à cause du langage, en fait. Parce que la personne qui fait le pont, là, comme ça, souvent, elle maîtrise les deux langues, et du coup, elle va servir de traducteur, alors elle va faire venir une autre personne qui maîtrise pas encore la langue, et du coup, elle va lui transmettre des informations, quoi, comme ça. Voilà. Ça, c'est sur l'angle individuel, et après, ce qui est intéressant, c'est sur l'angle collectif, en fait, c'est quand... Quand il y a suffisamment de personnes pour que ça développe et que ça permette de faire émerger une problématique de santé spécifique ou une barrière spécifique dans l'accès aux soins, et que la communauté donc arrive après à communiquer avec le système de santé sur cette problématique, quoi. Voilà. C'est un petit peu l'intérêt de la santé communautaire. Mais en France, c'est pas du tout reconnu. Enfin, c'est plus sous l'angle individuel et c'est plus, ça prend plus la forme de d'associations à côté, mais où il n'y a pas de médecin dedans, il n'y a pas de soignant dedans. C'est des associations d'accueil, d'information, au maximum vraiment de prévention, mais pas de soins. Alors des fois, ils font venir des médecins pour faire de l'information. Mais il y a, à part à Toulouse, à part la case de santé à Toulouse, où vraiment, donc ils ont une offre de soins, c'est-à-dire que Ça, c'est lié aussi à la façon dont les gens consomment de la santé. Les gens, ils vont chez un médecin, un soignant, parce qu'ils ont mal quelque part ou ils ont un problème. Donc ça, c'est consommer du soin. D'accord ? Tu vas pour... Tu as une demande de soins. Et donc, face à ça, tu as une offre de soins. D'accord ? Et du coup, c'est... Là, ce système-là, c'est un système qui existe, mais et à côté, tu as le système communautaire qui est possible, mais ça va rester sur la prévention, c'est-à-dire sur de l'information, et pas sur la personne arrive parce qu'elle a mal au ventre, alors elle est africaine, par exemple, elle n'a pas de logement, imagine, elle est lesbienne en plus. Là, l'offre de soins, elle va être vraiment dépassée, quoi. Si la personne, elle est vraiment toute seule, elle ne va pas pouvoir répondre de façon vraiment adéquate, quoi, en fait. Et c'est dommage. Sauf à Toulouse, la caisse de santé, enfin, ils ont mis en place un petit système où ça permet de s'affranchir comme ça de la barrière linguistique. Alors, sur les normes hétérosexuelles, je sais pas s'ils ont un angle spécifique là-dessus, mais en tout cas, je pense pas qu'ils soient dans le jugement, en tout cas. Donc, voilà. Et voilà. Donc ils ont, dans la. Et aussi, ils ont cet aspect collectif, c'est-à-dire qu'ils ont un lieu où les gens, s'il y a suffisamment de gens qui sont concernés par une même problématique de santé, et ben. Ils vont pouvoir faire des groupes de parole ou faire des groupes de politique, quoi, de discussion politique pour faire émerger ces questions après sur la place publique et les confronter au système de santé, comme je disais. Et ça, ben voilà, alors faut vraiment se battre pour que ça existe en France parce que la caisse de santé, ils sont pas très bien financés, enfin, c'est difficile, la DAS a mis. Ils ont beaucoup eu de mal quoi, à être reconnus par la DAS. Enfin, ça n'existe plus par l'ARS. Et je ne sais pas s'ils vont exister très longtemps, mais en tout cas, je crois que c'est vraiment les seuls qui font de la santé communautaire au sens... Enfin, au vrai sens du terme, quoi. Mais ça serait intéressant, par contre, que ça se développe, moi, il me semble... Il y a aussi une expérience qui est faite à Paris, le centre de santé sexuelle, le 190. Alors, ça s'adresse à une communauté plus large, qui est les personnes séropositives, donc, voilà, et les gays, et les personnes qui ont des sexualités marginales, ou des identités marginales, voilà. Ils se sont définis comme ça, leur public cible, c'est ça. Et voilà. Donc eux, ils font aussi un peu de santé communautaire, dans le sens où ils se sont donné voilà, des outils pour faire tomber les barrières linguistiques aussi. Bon, ils sont bien sûr pas dans le jugement, vu le public, c'était affiché comme tel. Mais ils sont... Enfin, et donc ils ont une offre de soins et leur idée, voilà, c'est ça, c'est à travers l'offre de soins recréer de la prévention en fait, enfin, faire de la prévention à travers la demande de soins en fait. Voilà, c'est ça. Eux, ouais, ils débutent aussi, donc c'est pas un truc qui existe depuis très longtemps. Ils sont, moi je les qualifierais peut-être un petit peu moins de santé communautaire quand même que Toulouse. Ils sont financés par SIDA Info Service et ils ont un projet sur 3 ans pour voir si ça marche leur truc. Mais non, c'est peut-être plus qu'ils arrivent, ils axent sur l'angle individuel en fait. Ils n'ont pas pensé en fait après à l'angle collectif, tu vois, ou s'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par une même problématique. Ils n'ont pas réservé, si tu veux, d'espace ou de temps de réunion pour que ces personnes elles puissent se rencontrer, se parler, s'organiser, tu vois, pour faire émerger. C'est peut-être pour ça, moi, que je trouve que c'est un petit peu moins santé communautaire que Toulouse. C'est-à-dire, ils favorisent pas, parce qu'il faut le favoriser, en fait, la rencontre des personnes qui sont créées par une même problématique, mm-hmm. au niveau du soin. Il faut donner l'information, il faut laisser un espace, il faut dire des temps d'ouverture, tu vois, il faut le favoriser en fait. Ça se crée pas tout seul en fait. ça existe sous d'autres formes. Souvent, ça existe donc sous forme, comme je te disais, d'association où tu vas pouvoir aller discuter de ton problème de santé, du suivi de ton traitement, de ci ou de là. Mais voilà, ça n'existe pas en lien avec le soin, en fait. À chaque fois, c'est pas comment dire, mais c'est une offre qui est à côté, quoi, et qui est vraiment dans la réponse à une souffrance, mais tu vois, à une souffrance individuelle, en fait. Et je crois pas que ça construise une réponse à une réponse collective, quoi, par exemple, à un problème social, quoi.
Alors voilà, c'était le premier reportage. Et on va. Alors, c'est ça. C'est que d'abord, je voulais parler de justement, comme c'était une médecin qui intervenait, qui présentait ce truc de présenter l'homosexualité dans ses consultations et tout ça. Tout à l'heure, je suis tombé sur Têtu, le Têtu de ce mois-ci, et en fait, il y a un article sur faut-il choisir un médecin gay, et dedans, il y a pas mal de témoignages de PD et puis aussi de PD qui sont patients et de PD médecins qui expliquent un peu justement. Le pourquoi, enfin par exemple les patients PD, ils expliquent pourquoi à un moment donné ils ont choisi d'aller consulter chez des médecins gays, parce que justement t'évites les trucs d'homophobie, t'évites les espèces de diagnostics qui foirent parce que le médecin il a pas envie d'entendre que t'es PD, ou alors qu'il a pas envie de te diagnostiquer ou t'ausculter parce que ça lui fait peur ou j'en sais rien. Et du coup il y a tout un article là-dessus, alors voilà, j'avais envie de le dire, je ne vais pas forcément lire des trucs, mais si vous voulez aller les lire. Et là, on va passer à un deuxième reportage, qui est l'interview d'une Gwyn de Toulouse, qui nous raconte la création d'une association de santé communautaire pour les trans, les PD, les Gwyn et les meufs, et qui nous explique un peu pourquoi il a eu cette envie de créer une asso, et un peu les objectifs de cette association. Et voilà, c'est parti, bonne écoute.
Alors le projet, il est né à Toulouse. On était plusieurs personnes à vouloir faire, s'intéresser à des problématiques de santé communautaire et faire un truc spécifique pour les trans pédéguines et puis les meufs. Je crois qu'on se rendait compte qu'il y avait des gens qui, enfin que un des facteurs que, je sais pas, le milieu trans pédéguine tienne, enfin un des éléments qui faisait que ça tenait ou pas de pouvoir continuer à faire des choses ensemble, c'était aussi basé sur des questions de santé ou de prise en compte de comment les gens allaient ou des problèmes de santé qu'ils avaient, et que souvent ça amenait les gens à quitter les collectifs que du coup ça fait que les collectifs y tiennent moins et qu'on peut faire moins de choses ensemble. Je trouve que souvent quand les gens vont pas bien dans les collectifs, et ben moi j'ai l'impression en tout cas qu'on prenait pas le temps de prendre en charge plein de trucs en fait, ou de réfléchir à plein de trucs, c'est pas de se poser et de faire juste un week-end d'atelier sur comment on fait quand on pète des plombs, ou comment on fait quand ça va pas bien, ou comment on s'organise et comment on essaye de mettre des trucs en place, des listes d'urgence, enfin j'en sais rien, tout un tas de trucs, et que j'ai l'impression qu'on ne prenait pas ce temps-là, et que là nous on avait envie de faire un truc pour prendre ce temps-là, et que ça soit formel, et qu'après aussi sur des questions. Souvent c'était des sujets, par exemple le rapport au médecin, c'est des sujets de discussion qui revenaient hyper souvent entre nous, où on se racontait souvent des anecdotes de choses qui se passaient mal, qu'on soit trans, PD, Gwyn ou meuf, enfin je sais pas, et que qu'on prenait jamais ça en charge, de se dire globalement comment on fait pour dealer avec ça, parce que à plein de moments on en a besoin, quoi, sinon on peut pas tout apprendre, enfin je sais pas, on peut pas se démerder juste entre nous, quoi. Et il est né aussi d'un truc de Pôle emploi nous court après, et du coup monter un projet un projet associatif de le poser en truc vraiment institutionnel et tout ça, ça faisait aussi qu'on s'est moins fait courir après par Pôle emploi là depuis un an, et que du coup on était un peu suivi pour monter des demandes de subventions et des choses comme ça. où en fait il s'avère que il n'y a pas de thunes et que de toute façon c'est plus les priorités actuelles du gouvernement et puis de plein d'autres trucs, enfin évidemment, mais que là du coup les projets de prévention santé c'est plus du tout les priorités, ils sont dans des trucs de je sais plus comment ils disent ça, mais c'est un truc avéré, ils arrêtent de financer en majorité les trucs de prévention et ils financent les trucs pour éviter les morts évitables, un truc comme ça, enfin c'est un peu fou, voilà. Les élus et puis globalement les gens qu'on a rencontrés, ils essaient de toujours tirer les projets vers le bas parce que le travail que les assos font et le travail d'assos de santé communautaire par rapport aux prostituées ou des trucs comme ça ou par rapport aux sans-papes et tout ça, bah de savoir que voilà les assos politiques au final le travail avant de faire même si l'argent il est pas là, que du coup ça fait un espèce de truc de bah vraiment d'exploitation de enfin je sais pas, c'est un truc super bizarre parce que sur les par exemple quand il y a un appel d'offres ou des mises à projet, ben ils donnent la thune aux associations qui demandent le moins de thune par exemple. Je sais pas où tu te retrouves avec 600 euros de salaire en emploi aidé pour soi-disant 25 heures alors que les gens en fait ils font leurs 35 heures de travail. Enfin moi ça m'a vraiment fait un truc vraiment hyper bizarre là d'auto-exploitation. Là on dépose officiellement les dossiers parce qu'on a fait juste des démarches, faut qu'on dépose les dossiers en mars. On les dépose parce qu'il faut qu'on ait c'est cool de voir qu'on est allé jusqu'au bout de la démarche et de enfin, si on n'a pas de subvention, enfin, moi je pense qu'on n'en aura pas ou très très peu. Enfin, pas de quoi faire des emplois aidés. Et qu'après, le calcul, il est vite fait, quoi. C'est qu'on ne sera pas obligé de faire, et en tout cas de rendre des comptes sur le travail qu'on a à faire, qu'on va pouvoir être plus libre sur ce qu'on fait. En fait, du coup, l'association a vraiment démarré cette année, une fois qu'on a su qu'on n'aurait peut-être pas vraiment d'argent et que voilà.
Folle de tristesse et de rage. Le cirage, folle de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur, cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie, ou sur quelques loques. C'est pour quelques pas, l'espace horrible fond sur moi, comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma vie.
Et du coup, on propose plusieurs choses avec cet asso. Il y a un truc de vraiment travailler avec la communauté TPG et les meufs, à savoir faire des ateliers. On a fait déjà une série d'ateliers sur... et c'est à la demande des gens et de c'est quoi les problématiques que les gens ils ont envie d'aborder. Et du coup, la première série d'ateliers, c'était sur les gens qui pètent des plombs, ou nous-mêmes quand on pète des plombs dans des collectifs, ou quand on va pas bien, ou quand... Enfin bref, comment on s'organise pour pas finir à l'HP, globalement. Ou pour pas quitter les collectifs parce que ça va pas et qu'on on peut pas rester. Voilà, et là, on en fait une deuxième sur les violences intimes et les violences sexuelles dans les communautés TPG. Ça, c'est les différents ateliers qu'on a proposés en non-mixité TPG-meuf. Et l'atelier sur les violences intimes et les violences sexuelles, il aura lieu en mars à Toulouse. Après, ouais, nous, on veut vraiment aborder toutes les thématiques qui concernent les... Enfin, là, dans la communauté, c'est quoi les soucis des gens. Et l'un des soucis, nous, qu'on avait, c'était de gérer les gens qui pétaient des plombs, ou de se gérer nous-mêmes quand on pétait des plombs. Et que ça, c'était juste lié à aussi une des histoires qu'il y avait eu à Toulouse et qu'on n'avait pas pris le temps d'en parler en grand collectif. Alors que ça avait plein de répercussions sur tout un collectif. C'est un début. Ça faisait que pendant deux jours, on s'est posé à 20 et on a essayé de parler de plein de choses et aussi de comment on réagissait, c'était quoi les normes qu'on recréait dans nos collectifs, comment on excluait les gens, comment on se mettait. Enfin, j'en sais rien. Oui, pour moi, ça répondait vraiment à des trucs. Après, ça n'a pas posé de solution. C'était compliqué, mais en tout cas, ça a permis de parler de trucs que j'avais l'impression qu'on n'avait jamais parlé en aussi grand collectif. Avec une volonté d'essayer de se remettre en question sur des trucs et de trouver des pistes de solutions, en tout cas. Du coup, là, c'était ça la nécessité, mais après, on veut aussi aborder d'autres thématiques où on avait fait une série d'entretiens aussi avec des gens pour voir un peu c'était quoi, c'était quoi les problèmes rencontrés dans les parcours de santé ou les parcours médicaux, et voilà, pour évaluer je sais pas, le niveau de sexisme et d'hétérosexisme des médecins, tout ça. Et du coup, c'était assez hallucinant. Du coup, les ateliers, ils vont aussi porter sur d'autres questions de santé globale, quoi. Un catalogue de formation pour les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Et du coup, il y a plusieurs types de formations. Il y a une sensibilisation aux problèmes du sexisme et de l'hétérosexisme dans les milieux médicaux. C'est un truc un peu large. Et après, il y a des journées de formation pour approfondir certaines questions, genre le viol en milieu médical ou des thématiques comme ça. Et là, tout de suite, les discriminations à la santé en fonction de le fait que tu sois TPG ou que t'aies pas de travail ou... Et là, on est en train de monter le catalogue et normalement, il y a des formations qui sont un peu prévues via des vrais centres de formation. Mais on attend d'avoir le bon nombre d'inscrits pour pouvoir les démarrer. Le premier objectif, c'est d'arriver à se faire un réseau de médecins de confiance. Juste pour pouvoir aller chez le médecin tranquillement. Enfin, et du coup, l'idée de faire les formations, c'était qu'une fois qu'on a fait les formations, ou dès qu'on a, déjà on a, sans faire les formations, on a un micro réseau de médecins, que des gens sont allés voir et on nous fait des retours, on sait que tel médecin, ça va pour telle question, et que du coup, on peut commencer à renvoyer des gens vers ces médecins-là. C'est déjà commencer à brancher ces médecins-là pour faire les formations, et c'est de taper plus large avec d'autres médecins pour avoir un vrai réseau de médecins de confiance et les sensibiliser à certaines questions, trucs de sexisme et d'hétérosexisme. Un exemple. Je sais pas, par exemple, c'était la galère de trouver des gynécos chez lesquels peuvent aller les gouines et les trans. Et du coup, ça, on a commencé à en trouver une ou deux et à pouvoir entamer des discussions avec sur comment tu reçois les personnes et c'est quoi les questions à éviter ou les trucs ou les boulettes un peu ou les assignations à des sexualités ou à des pratiques ou tout ça, quoi, pour qu'on puisse vraiment se faire suivre sur des questions de santé autres que la contraception, par exemple. Il y a une grosse communauté de lesbiennes radicales à Toulouse, où il y a un passé depuis des années. Et du coup, on a eu le nom d'une gynéco qui suivait pas mal de nanas depuis quelques années, vers qui, par exemple, on a renvoyé pas mal de gouines, des trans, pas encore, et avec qui ça se passe bien. Après, un travail qu'on n'a pas encore eu le temps de faire et qu'il faut qu'on fasse, c'est démarcher ces médecins-là pour présenter l'asso et... Voilà, commencer à faire du contact. Et je sais pas, aussi pouvoir se poser en personne ressource, parce que je pense qu'il y a des médecins qui se posent des questions, qui ont sincèrement envie de remettre en question des trucs, et que je trouve que ça peut être cool de dealer avec eux, quoi. Moi, je pense pas que ça change des trucs... je pense pas qu'on va révolutionner quoi que ce soit, mais... Il y a deux trucs, c'est que, par exemple, le coût des formations, c'est le seul truc payant de l'association. Enfin, car du coup, on avait pensé à un truc de répartition des richesses aussi, de genre de piquer la thune aux médecins qui viennent faire les formations, et de pouvoir faire tourner d'autres activités de l'association avec ces thunes-là. Ça, on ne sait pas encore s'ils vont vraiment lâcher de la caisse, mais normalement, les formations sont payantes en tout cas. Et du coup, l'idée aussi, c'est de pouvoir dealer avec des institutions à plus haut niveau pour les rendre un peu obligatoires pour qu'on ait des... Enfin, bref. C'était un des premiers trucs. Et après, moi, je le pense juste à un niveau hyper pratique. Parce que moi, je crois pas... Effectivement, moi, je crois pas qu'on va changer les choses ou qu'on va changer la formation des médecins et que tout va être formidable d'ici 2 à 3 ans. C'est pas ça. Mais c'était juste le penser vraiment dans un truc pratique et puis local aussi. Enfin, que là, nous, notre action, elle est plus sur Toulouse et répondre en tout cas à des besoins pratiques. Genre pouvoir aller... pouvoir aller faire un... Ouais, je reviens sur cette histoire des examens gynéco, mais c'est pas les seules questions, mais juste pouvoir aller faire un examen gynéco en étant tranquille, et ben juste ça, si ça peut se faire, moi ça me va. Enfin, j'imagine pas changer plus les choses que ça, en fait. Mais rendre des choses possibles juste à niveau local et dans un certain contexte, ouais. Ben, après, là, sur les journées, les invitations, il y a des gens qui sont... ont fait... pardon, je vais tousser, je suis dans une assaut de santé. Là, la première journée, il y a des gens qui venaient d'ailleurs. D'autres villes et puis aussi d'autres milieux. Il y a des nanas qui venaient plus du milieu anti-psy et tout ça. Et ça, c'était vraiment chouette. Là, les invitations pour les ateliers, elles sont envoyées à d'autres gens, d'autres villes. Après, en fait, aussi, de ces ateliers, ils sortent des... Normalement, elle doit sortir des brochures après chaque atelier, dans ce truc de, ben voilà, laisser garder une trace de tout ce qui se passe et qu'on s'était dit qu'on ferait peut-être une tournée de présentation de ces ateliers-là dans quelques temps quand on en aurait fait plusieurs. Et qu'après, aussi le truc qu'on se disait, c'est qu'il fallait qu'on fasse aussi d'autres ateliers, peut-être moins communauté TPG, autogestion, blablabla, mais aller voir un peu, je sais pas, dans les assos LGBT et tout ça. Aussi voir d'autres gens, enfin sortir un peu de ce milieu-là, même à niveau local. Mais après, oui, il y a aussi la volonté de se mettre en réseau avec, et ça plus largement, avec d'autres assos de santé communautaire. Et normalement, on va faire une rencontre des associations de santé communautaire un peu large un week-end. Je pense avec l'association APRIS, c'est une association de Toulouse aussi qui fait de la réduction des risques liés à la sexualité. Des trucs comme ça, qui elle travaille un peu dans les écoles et tout ça sur des questions sexistes et hétérosexistes.
Brûler vive sur le bûcher, l'esprit et le corps embrasé. Une femme a l'habitude de l'est à l'ouest, du nord au sud, noircie par toutes les tortures et rongée par la moisissure, ensevelie dans les glaciers, projetée dans un corps d'acier, solitaire. Sans paroi, sans chair, sans arête, étouffée de serpents flambants, assourdie de cris de mourants, je ne sais comment je survis. Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi-hi-hi. Que c'est drôle, que c'est joli. Dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis. La haine et la misère au cœur. Douleur. J'avoue, oui, j'avoue que j'ai peur. Crever de blessures, de fleurs. Carnivore et omnivore. Dans les terres effrayantes que dort le soleil de Satan puant, calcinant la mer. Jusqu'au tombeau glacé du rêve, j'abandonne alliés et amis, leur sort plein de mélodies, scribouillard qui chie ta copie, comprends-le, c'est ça ma folie. Brigitte est folle, hi, hi, hi. Que c'est drôle, que c'est joli. Dans les plumes de canaries, les feux follets et les rubis.
Voilà, alors on arrive au bout de l'émission sur la santé des transpédéguines. On espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a aussi donné envie de vous investir dans des associations de santé communautaire, ou en tout cas d'avoir un regard assez critique sur la médecine, comment elle est pratiquée. Et on va faire un petit agenda des trucs qui viennent. Alors il est assez court, hein, mais... à Bordeaux, alors ça sera pas maintenant, mais c'est pour les gens qui ont envie de bouger, il y a une manif de nuit féministe et non mixte. Alors c'est le collectif bordelais Au Vert et Contre Tout qui appelle à une marche de nuit féministe et non mixte le 2 avril à 20h30 avec comme point de départ la place du Parlement. Alors je cite: notre collectif s'est engagé depuis plusieurs mois sur une campagne, concert de soutien, collage, table de presse, production d'une brochure contre les violences spécifiques faites aux femmes, notamment celles perpétrées en milieu universitaire ou par des universitaires. Et c'est pour clore cette campagne et pour pouvoir commencer la prochaine, car il y en aura d'autres tant qu'il le faudra, que nous organisons un week-end féministe les 1er et 2 avril à Bordeaux avec un concert de soutien aux femmes victimes de violences, notamment dans leur démarche juridique, le 1er avril.
Et puis, on l'a déjà dit, mais je le répète, dans la suite des assises de la prostitution qui se déroule aujourd'hui, il y a demain la marche pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe, prostituées et autres tapins. Donc rendez-vous à Place des Terreaux à 14h30.
Voilà, et on va se quitter en musique avec un morceau de Scream Club qui s'appelle I'm Going Crazy. Eh bien, bonne fin de soirée, enfin, bon début de soirée plutôt, fin d'après-midi. Ouais. Et dans deux semaines, la semaine prochaine, c'est Lilith, Martine et les autres sur Radio Canu. From BS, I did my look like it.